Tu es notre sauveur, tu es notre roi, et tu es au milieu de nous maintenant. Seigneur, nous n'avons rien à dire qui ne viendrait pas de toi. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous dire ce que tu as dans ton cœur. Merci Seigneur. Amen. C'est que l'Esprit de Dieu me presse de lire. C'est dans 1 Corinthiens 15. Et le verset 10 que je lis au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Il fut un temps, quelques années après ma conversion, le Seigneur m'a tant fait voir de sa gloire, et il me pressait dans mon cœur de consigner tout ça par écrit. Et au moment où je commençais à prendre un cahier, un stylo, que je pliais, j'entends la voix de Dieu qui me dit « Stop, ferme ton cahier, pose ta plume et on n'y pense plus. » Voilà, le projet était enterré immédiatement et on n'en parlait plus. Et heureusement pour moi, parce que, comme j'ai dit à tout le monde, le plus grand danger qui nous guette lorsque nous voyons la gloire de Dieu, parce que nous avons cette grâce de voir la gloire de Dieu, c'est le danger de l'orgueil spirituel. C'est le plus grave danger qui guette les chrétiens et les églises. Restez humble. Comment faire? C'est difficile en fait, parce que l'humilité de Dieu n'est pas du tout celle que nous croyons être. J'ai dans ma tête en ce moment, tout de suite là, une anecdote que j'ai vécue moi-même dans le sud de Madagascar. Je vous ai parlé ce matin d'une prophétesse authentique qui était à Madagascar, qui est à l'origine de beaucoup de grâces dans les églises, dans les familles, dans les individus. Nenlav, elle s'appelait. Quand j'étais dans une de... C'est ce qu'on appelle les Toubi. C'est des centres du réveil. J'étais invité là-bas, par elle, pour donner quelques formations à des jeunes sur place là-bas. L'après-midi, après le déjeuner, elle me dit... Vous voyez la case là-bas? Vous allez là-bas. Je viens après vous. Parce qu'il y a les notables, les anciens, tout ça, qui sont là-bas. Et je viendrai pour vous apprendre quelque chose cet après-midi. Bien, on dit toujours, maman, on va y aller, pas de problème. Merci. Et je me suis rendu à cette case. Et quand je suis arrivé, tout le monde était par terre, comme ça se faisait d'habitude sur les nattes, une petite case de campagne. Et à côté, trônait un lit, assez haut comme ça, avec une belle couverture blanche immaculée dessus. Bon, alors la dame qui était là venait jusqu'à moi et me dit, « Frère, s'il vous plaît, installez-vous là, sur le lit. Qu'est-ce que vous voulez faire à ma place? Vous êtes installé tout de suite? » Ah, voilà, une dame qui fait comme ça. Eh bien, j'ai fait pareil. Je ne me suis pas installé tout de suite, j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi m'asseoir comme tout le monde, ça ne me gêne pas du tout. Je vais m'asseoir comme tout le monde. Elle dit, mais s'il vous plaît, vous êtes notre invité. Sur le lit, je dis, non, mais si, soeur, vous êtes très gentil, mais je préfère. Je pensais que c'était humble comme ça. C'était ça l'humilité, selon moi, de m'asseoir comme tout le monde à côté. Bon, je me suis assis, personne ne dit rien. Quelque temps après, notre Nenda entre, et elle entre et s'assied tout de suite à côté de la porte. Elle prie. Alors, lorsqu'elle a terminé de prier, elle lève les yeux et me regarde dans les yeux. Oh, ce regard! Elle me dit, qui vous a dit de vous asseoir là? Nathan vous a pas dit que vous devez vous asseoir sur le lit? C'était si, mais je préfère m'asseoir là. Elle me dit, soyez humble. Ah. Asseyez-vous sur le lit. Bien. Je me suis levé, un peu penaud. Je me suis fait très petit. Et timidement, je me suis assis sur le lit. C'était ça l'humilité. Non pas faire ce que je veux, mais ce qu'on me demande de faire. Voilà. Et ça m'a été une grande leçon dans ma vie. Si on doit être humble vis-à-vis de son frère, à plus forte raison vis-à-vis de Dieu. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut l'exécuter. Peut-être j'ai plus d'aptitude à obéir, ayant été dans l'armée. Dans l'armée, on apprend toujours à obéir. Dans l'armée, on dit, la réclamation n'est permise que lorsqu'on obéit. Hein, si on vous dit de vous jeter par la fenêtre, il faut vous jeter par la fenêtre avant de faire réclamation, sinon ça ne marche pas. Dans l'armée, c'est comme ça. Ouais. Eh bien, ça a été une grande leçon pour moi, et l'application a été pour moi très simple. Quand on va dans une église, quand on vous demande le devoir de donner le message, la prédication, en général, les églises à Madagascar, je ne sais pas en France, donc après, le pasteur vient avec quelques diacres dans la pièce à côté, et on vous invite à venir. Et les gens vous entourent et se frottent les mains un peu en disant merci, nous avons été très bénis par votre prédication. Ben, écoutez, voilà, une petite enveloppe, juste une petite enveloppe, quelque chose, juste pour votre jus de fruits ou pour embaucher votre essence pour venir, parce que quelquefois on va assez loin. Et puis donne. Et moi, le premier temps, j'ai dit, écoutez, c'est gentil, moi je veux soit ça avec soi. Mais s'il vous plaît, je vous donne pour les enfants, pour n'importe quoi dans l'église. Et je pensais que c'était ça l'humilité. C'est faux. C'était pas ça l'humilité. Qu'est-ce qui m'a appris que c'était pas ça? Eh bien, c'est mon petit incident avec une enlave. Il faut toujours accepter ce que les gens vous demandent. Les gens vous donnent ça de bon cœur. Il faut l'accepter avec joie. Et par la suite, j'ai toujours dit, merci, puisque vous me donnez cette enveloppe avec joie, moi, je veux aussi la recevoir avec joie, la joie du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse et tout ça. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, alors, l'histoire de l'association WAPT, que beaucoup d'entre vous commencent déjà à voir, un peu avoir une vision juste, c'est une histoire, en fin de compte, de grâce de Dieu tout le temps, tout le temps. Et cette grâce de Dieu, c'est une grâce immense, sans fin, de tous les jours. C'est pour ça qu'on appelle notre Dieu de toute grâce. Tout est grâce pour celui qui a confiance et qui obéit à Dieu. Et notre parcours tout le temps était ça. Le Seigneur nous dit quelque chose, quelque soit vraiment incompréhensible, qui n'a rien à voir avec la logique humaine. Et on a appris, peut-être moi, une déformation professionnelle dans l'armée, peut-être, mais plus par la conviction de Saint-Esprit. Quand on a confiance, on ne peut pas désobéir, c'est impossible. C'est en fait ça, la confiance. La foi, pour moi, et je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est d'abord avoir une confiance totale, sans condition, inconditionnelle. Confiance en Dieu. On ne peut pas ne pas avoir confiance en Dieu quand on sait qu'est-ce que Dieu a consenti, qu'est-ce que Jésus-Christ a consenti. Il a tout donné pour que nous ayons cette vie que nous avons, nous, qui va se prolonger sur la vie éternelle. On ne peut pas ne pas faire confiance. Et ça, tout le monde est d'accord sur ça. Mais ça, c'est la première partie. Il y a l'autre partie qui consiste à obéir. Ce n'est pas tout d'avoir confiance. Encore faut-il obéir. Et cette deuxième partie est certainement très importante. Et on ne peut pas la contourner. Je me souviens, quand je pense comme ça, que lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, on a tendance à raisonner, à se demander si ce qu'il nous demande est possible, ainsi de suite. Et le temps qu'on perd à discuter comme ça est un temps dangereux. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord dire oui. Et quand on dit oui, ça va, les obstacles tombent d'eux-mêmes. Ça m'est arrivé une fois, j'ai peut-être rencontré dans mon livre, je ne me souviens plus, je dormais une nuit, pas de problème, je dors. Je me sentais en règle avec Dieu, je dors. Et quelques temps après, je sens comme un doigt qui me fait comme ça. Et le Seigneur qui me dit, dans la foulée, prie pour un tel. J'ai dit, pour un tel? Celui-là? Jamais. Jamais. Vous savez pas, mon Dieu, ce qu'il a fait, s'il m'a fait celui-là? Non, c'est pas possible. Demandez-moi tout ce que vous voulez, pas de prier pour lui, c'est pas possible. J'avais encore peut-être des blessures intérieures concernant cette personne. Et puis je commence à dormir. Alors, non, encore une fois, je ne sais pas combien de temps après, tu vas prier cette personne et tu vas lui parler de l'Évangile. Oh là là. Et puis quoi encore? C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais Seigneur, tu peux pas dire ça. Tu peux dire à un autre, prier pour lui, d'accord, je peux le prier, mais pas aller jusqu'à lui amener l'Évangile, ce n'est pas possible. D'abord, il va rigoler, il va m'envoyer balader, ben non, c'est pas possible. Seigneur, s'il te plaît. Pas de réponse. Et je dors. Toc. Comme ça. Après, je dis, écoutez, Seigneur, je vais m'asseoir, j'allume et puis je commence à lire la Bible, je lis jusqu'à m'endormir. Et je dors. Et le doigt de Dieu, non. Vous savez que Jésus est têtu quelquefois, hein. Il n'y a rien à faire. Toc! Je me réveille, mais c'est pas possible. J'ai tout fait. Et ça a duré toute la nuit, jusqu'à vers 4h, 5h du matin. J'étais très fatigué. J'étais à bout. Je n'en pouvais plus. J'étais énervé. J'étais au bout du rouleau. J'ai dit que c'est pas vrai. C'est le cœur de l'homme est quelquefois dur. Hein. Ne croyez pas que je suis ce que vous croyez que je suis. Hein. C'est pas toujours comme ça. Pas toujours comme ça. Je suis comme tout le monde. Et 4-5 heures du matin, j'attendais. J'ai dit le doigt va venir à tous les coups. Alors, je m'assis, j'ai dit, Seigneur, ok, j'accepte. Alors, quand j'ai dit j'accepte, voilà, j'avais la paix et j'ai dormi bien. Vers 7 heures, je me réveille, j'ai dit, Seigneur, maintenant, dis-moi comment je vais faire pour aller porter l'évangile chez lui. Elle dit, c'est très simple. Le Seigneur a dit, c'est très simple. C'est très simple. Voilà. Tu vas prendre une feuille de papier, stylo, et je te dicte ce qu'il faut lui dire. Vous voyez, c'est tout. Alors, je prends le feuille de paix, je prie, et je dis, cher, c'était un médecin, cher docteur, bon, voilà, voilà, voilà. Voilà, je lui parlais de l'évangile à travers ce que j'ai compris, avoir reçu du Seigneur. Et à la fin, je signe, je me relis, c'était parfait. C'était parfait. Alors le Seigneur me dit, maintenant, tu plies en quatre, tu mets dans une enveloppe, tu mets son adresse et tu postes. C'est tout. Alors vous rendez compte, toute la nuit, de résistance. Alors que c'était simple de dire, Seigneur, oui, j'accepte. Je n'aurais plus la plume et j'aurais dormi tranquille toute la nuit. Et le Seigneur était heureux de voir au moins quelqu'un qui l'obéit du premier coup. Ça, je me rappelle toujours, et ça a été une grande leçon pour moi. Et de plus en plus, je préférais obéir avant de discuter. Et je n'aime pas qu'on discute. Vous savez que le Seigneur n'aime pas qu'on discute. Il dit souvent, quand vous lisez la Bible, je vois souvent, de quoi vous discutez là? Il dit comme ça. Il ne faut pas discuter, il faut... Il nous aime, il est puissant, il est amour, il est miséricorde, il est de toute grâce. Pourquoi ne pas lui dire tout de suite, oui Seigneur, je viens. Voilà. Donc, la vie de notre association était une succession de grâces comme ça. Le Seigneur nous dit de faire quelque chose. On dit, Seigneur, oui, Seigneur. Ok, nous y allons. Et après, le Seigneur nous équipe quelquefois, parce que quand il nous dit d'aller, par exemple, à Fort-Dauphin, c'est à 1000 kilomètres dans le sud de Madagascar. Et il nous dit, il faut aller là-bas, parce que là-bas, les gens souffrent de famine, non seulement matérielle, mais encore spirituelle. Alors, le comité m'envoie là-bas pour faire une reconnaissance. Je vais là-bas. Je suis accueilli par le pasteur qui est président du synode, c'est-à-dire d'ensemble d'églises qui est dans une région. Il me reçoit chez lui et je lui dis, Monsieur le président, voilà, nous avons l'intention, si Dieu le veut, de venir opérer dans certaines de vos églises que vous désignerez vous-même, une campagne d'évangélisation qui peut durer 15 jours, ainsi de suite, comme on fait d'habitude. Alors, il m'a dit, oui, c'était gentil, mais notre problème, c'est que nous sommes ici dans une pauvreté telle qu'on ne peut même pas, qu'on ne pourrait même pas vous donner à manger à vos équipes, parce que la tradition chrétienne voulait que dans les circonstances pareilles, l'Église vous donne à manger. L'Église facilite notre quotidien pendant que nous allons dans les prêcher l'Évangile partout, qu'on arrive à midi, le repas déjà tout fait, quelquefois c'est le canard qui passe, quelquefois c'est le poulet, le poisson, mais ça y va. Bon, mais là on nous a dit, c'est pas possible. Les gens sont trop pauvres. On se dit, monsieur le pasteur, ne vous en faites pas. Nous venons avec tout ce qu'il faut pour ne pas vous mettre en souci. Voilà ce que j'ai dit. Alors il dit, bon, ok. Bon, on s'était entendu, je suis revenu à Tana et on a préparé l'opération. Alors, tenez-vous bien, nous au départ, on n'avait rien. Mais en quelques temps, en quelques, mettons, 5-6 semaines de préparation, nous avons pu mobiliser une quarantaine de personnes de notre association, tous évangélistes. Nous avons pris l'avion pour aller là-bas. Et avec notre petit camion, on a mis une tonne de riz, de l'huile, des boîtes de sardines, des boîtes de conserves, toutes sortes, tout ce qu'il fallait pour notre survie pendant 3 semaines là-bas. Et on a mis tout ça dans l'avion, on est parti, on arrive là-bas. Et on commence les opérations. Et alors, ce qui était absolument extraordinaire, c'est que là, les équipes, là où on envoyait les équipes, les témoignages étaient unanimes. On n'a rien touché à ce que nous avons amené, rien. Je ne sais pas comment ils ont fait, les églises locales, mais ils ont trouvé du riz, du poulet, des canards, des poissons pour nous nourrir en permanence. Tout ce que nous avons amené était absolument intact. On n'y a pas touché. C'est des miracles. C'est extraordinaire. Et à la fin, quand nous avons terminé, il y a eu beaucoup de fruits, bien sûr, le Seigneur était à l'œuvre. Et à la fin, eh bien, on a laissé tout ce que nous avons amené à l'église. Voilà, c'est pour vous, on n'amène rien. C'est pour vous. Alors, c'était la grande joie. C'était, encore une fois, quand le Seigneur nous envoie, et qu'en réponse, nous disons, nous sommes d'accord, Seigneur, nous partons en ton nom, dans la grâce de ton amour et tout ça, on marche, eh bien, il y a toujours la gloire de Dieu qui nous attend. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est, le Seigneur est comme ça. On ne les changera jamais. En fait, il a tout en main. Il a tout en main. Il donne sans arrêt. Il nous aime. Il donne. Je ne parle pas de la santé physique, je ne parle pas du reste. Mais c'est incroyable. Et quelquefois, quand je dis il nous donne tout, ça veut dire que quelquefois on dort aussi dans une maison qui il y a des trous dans le toit et pendant la nuit il pleut et ne mouille. Quelquefois il y a des punaises dans la maison. Les punaises, ça vous. Toutes sortes d'insectes, vous savez, là-bas, les insectes ne manquent pas. N'est-ce pas, Elsa? Voilà. Elsa, c'est quelque chose. Voilà, les cafards, les trucs, vous savez, les cafards avec les antennes comme ça, qui bougent la nuit. Eh bien, tout ça, la faim, la soif, ça arrive. La fatigue extrême. Je me souviens, on amenait des Bibles comme ça, on avait, comment on appelle ça, une barre peut-être. Et là, il y a une corbeille pleine de Bibles, de ce côté plein. Alors on montait comme ça, quand on escalait, mais sur le côté comme ça, montait. Et vraiment, au milieu de la montée, je n'en pouvais plus. C'est très, très fatigant. Je ferme les yeux, à côté de moi, les gens transpiraient aussi, parce qu'on avait le sommeil juste, le soleil était là, en face de nous. Et on ferme les yeux, on dit Seigneur, et on a la vision de Christ qui porte la croix. Vous rendez compte de le Seigneur a permis que nous ayons ce jour-là un petit un avant-goût de ce qu'il a souffert en portant cette croix pour aller jusqu'à au calvaire là-haut. Et quand on a eu ça, on se dit oui, quelle grâce. Le Seigneur nous donne la grâce de voir un peu de ce qu'il a souffert lui-même. Nous avons souffert un peu. Et ça nous a donné une nouvelle force pour terminer. Et quand on est arrivé au sommet, on a glorifié le Seigneur. On a passé un moment inoubliable. Je vous cite ça comme ça en vrac, hein, sans penser à quoi que ce soit. Et je ne veux pas aller plus loin parce que peut-être que mon frère Bruno, il est là. Bruno, tu es prêt? Parce que j'ai le privilège de vous dire que notre frère Bruno est déjà venu chez nous. Il est au courant de pas mal de choses qui se passent chez nous. Et bien, je pense qu'il a quelque chose à dire. Tu es prêt ou je continue un petit peu avant que... Le temps que tu branches. Ce matin... Quand les Malgaches ont chanté le premier chant qui était un peu rythmé, là, j'ai dit au pasteur que nos enfants aiment ce chant. Et quand c'est nos enfants qui chantent ça, c'est quand ils sont 150 à chanter ce chant-là, ouf! Il y a le toit de notre chapelle qui se soulève un peu pour laisser passer les voix des enfants. Alors, les enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Avant, quand j'étais dans l'armée, quand j'étais dans les affaires, je m'arrête à côté d'un trottoir, quand il y a un enfant de la rue qui s'approche, elle dit, dégage, hop, 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 dégage, sinon tu vas voir mes 43 dans les... Comme ça, j'étais comme ça. Et par la suite, quand le Seigneur a transformé mon cœur, c'est moi qui allais vers les enfants, chercher sous les étals au marché, s'il n'y a pas un enfant qui est en train de souffrir d'une forte diarrhée, qui n'a plus rien à manger. Et là, j'ai négocié avec cet enfant pour pouvoir le transporter dans mon landau vert et puis l'amener jusqu'au centre. Quelquefois, quand j'arrive, il y a les enfants qui courent vers moi. Hé, out, out, là, là-bas, il y a un enfant qui est malade. On vient là-bas, c'est un enfant qui a une plaie, qui n'arrive plus à bouger, surinfecté. Et tu viens, on va te préparer, et ainsi de suite. On négocie, l'enfant accepte, on l'amène, et c'est comme ça. Et on passe des ténèbres à la lumière comme ça. C'est extraordinaire, l'amour. Et il y a une sœur qui s'appelle Esther. Elle vient me voir, elle me dit, frère, comment je fais? Je souffre. Et elle était responsable de notre orphelinat à Salem, notre premier centre. Elle dit, je souffre. Je dis, de quoi tu souffres? Elle dit, voilà, je fais tout pour aimer les enfants, mais je n'arrive pas comme je devrais le faire. Comment il faut faire? J'en souffre, j'en suis malade. J'aimerais bien pouvoir aimer les enfants comme le Seigneur les aime, mais je n'y arrive pas. Je suis désespéré, frère. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Aide-nous. Il dit, voilà, comment tu fais quand tu parles à un enfant que tu veux aimer? Et tu es comme tout le monde. Je dis, hé, hey, tu sais, hein, je t'aime et tout ça. Je veux bien faire. Ça ne marche pas, l'enfant me regarde. Et je suis désespéré. J'ai dit, non, la prochaine fois, tu ne fais pas comme ça. Tu fais comme le Seigneur. Le Seigneur, quand il est venu sur terre, il était né dans une clinique de luxe. Non, je m'excuse. Dans une étable. Il était descendu très bas pour pouvoir aimer tout le monde. Je pense que personne parmi les humains n'a jamais trouvé les joues dans une étable. Et bien, j'ai dit, Esther, quand tu, la prochaine fois, tu t'assois par terre, il faut que tes yeux soient à la même hauteur que les yeux de l'enfant. Et quand tu regardes l'enfant, regarde avec amour. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu regardes l'enfant et l'enfant te regarde. D'abord, il va être étonné de te voir tous les jours debout, hein, parler de haut comme ça. Et là, il te regarde. Ah, elle dit, voilà, je le fais tout de suite. Alors, elle sort, moi, de ma fenêtre, je la vois. Elle dit, beaucoup d'enfants dans la cour, elle cherche l'enfant qu'elle n'arrivait pas à conquérir. Elle la trouve, cette fille. Elle s'approche doucement, sans faire de bruit, et se met devant l'enfant, et mine de rien, et s'assoit par terre. Elle regarde l'enfant, elle lève doucement, l'enfant regarde comme ça, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et alors, toc, les yeux dans les yeux, elle regarde. Avec un tel besoin d'aimer et d'être aimé, elle était là, je l'ai vue depuis ma fenêtre. Et après un certain temps, elle fait les mains comme ça. Et l'enfant saute sur elle. Tac, comme ça. Et il était comme ça. Vous avez compris? Il faut toujours être à la hauteur. Descendre à la hauteur des gens. C'est ce qu'il a fait Jésus. Il a été prendre son repas chez un lépreux. Ah, Jésus, c'est incroyable. Une fois, j'ai suivi Jésus, enfin, dans une opération. Dans une opération d'évangélisation, c'est réellement cela. On suit le Seigneur. Le Seigneur, nous te suivons. Et les gens qui étaient dans le village, ils disent, là, dans cette petite case, il y a une dame. Elle est toute seule. Et elle ne sort jamais. Alors, la porte n'est pas plus haute que ça pour aller dans sa case, comme ça. S'il vous plaît, elle est malheureuse. Elle a perdu sa famille, enfin, bref, des tas de problèmes. Elle vit là. Et elle, comment dirais-je, vraiment, elle s'extrait de la société, elle vit toute seule là-bas, elle est prostrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'ai dit, Seigneur, on va y aller. Oui, on va y aller. Donc, on avance. Et avant que je n'entre par la petite porte, j'avais la vision du Seigneur qui se courbe et qui rampe devant moi pour entrer dans la petite porte. Vous connaissez l'histoire de la petite porte? La porte étroite, c'était ça, en fait. Et alors, je dis, Seigneur, tu te mets à quatre pattes pour entrer là-dedans. Et moi, pourquoi pas, je le fais. Je le fais, on entre là-dedans. Et simplement, quand j'arrive là-dedans, je m'assois, et je vois la vision du Seigneur qui est à côté de moi. La femme regarde. Elle dit, c'est pas vrai. Et ça n'a pas du tout été difficile de parler à cette personne de l'amour de Jésus, tout ça. C'est vraiment... Je me souviens toujours de ce qui s'est passé par la suite. Elle était tellement heureuse que le Seigneur allait dans sa petite chambre étroite et lui parlait de son amour, de sa mort sur la croix, de rémission des péchés, de cette alliance par le sang pour la rémission des péchés et pour l'Esprit de Dieu qui veut descendre dans cette femme pour conquérir cette femme pour toujours. Tout ça s'est passé là et autour de la petite case il y avait tout le village entier derrière. Et quand on est sorti de cette case, moi j'ai dit toujours avec le Seigneur parce que je l'avais vraiment avec moi ce matin. Je vous dis, marcher main dans la main avec le Seigneur, c'était ça. Et donc quand on est sorti, tout le monde autour voit, c'est même sortir. Vraiment, le visage épanoui, tout le monde applaudit, tout ça. C'est invraisemblable. Je m'arrête. Bruno est prêt? Tu es prêt?
Attends. Oui. Donc, tu vois les jeunes qui t'écoutent là. Quand on t'écoute, tu as l'impression que depuis tout bébé, tu es chrétien. Est-ce que un jour tu t'es converti ou tu étais
dans
l'armée déjà?
Non, pas du tout.
Peux juste dire un petit mot?
Bon, ma conviction. Une conversion. C'était mon père qui était chrétien, vraiment chrétien. Quelquefois, quand incidemment j'ouvre sa chambre, ça fait attention, je croyais qu'il n'était pas là. J'ouvre comme ça, je vois mon père à genoux. Oh le vieux. Bon, ok. Et quand j'étais en France, j'étais dans l'armée. Mon père, tant que j'étais à l'extérieur, mon père m'écrivait toujours une lettre par semaine. À l'époque, il n'y avait pas d'email ni quoi que ce soit. Et dans chacune de ces lettres, il y a toujours le mot Jésus. C'est sauf sur un malgache. Je lis ces lettres pleines d'affection. J'aime bien lire mon père, mais quand je vois Jésus, hop, je saute. Je ne lis pas la phrase. Sauf une fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est le Seigneur qui m'a mis comme ça pour que je lise ce qui était là. Alors ce que j'ai lu là, c'était simple. Mon enfant, quand tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre avec ton argent, avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec tes amis, avec tout ce qu'a pris dans la vie, tu ne trouves plus aucune solution. Il y a encore une solution et la bonne, Jésus. Le Jésus du vieux, voilà, bon. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça a été sémé quelque part en moi. Vous savez, le mot de Jésus, le grain de blé, quand il tombe et qu'il ne meurt pas, il ne sert à rien. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Alors, cette parole qui a été sémée dans mon cœur 10 ans après, c'était un gros problème. Plus de solution. Alors la solution pour moi à l'époque, c'était d'un pistolet. Et j'avais un gros calibre, un petit calibre. Je n'avais qu'à choisir, je le roule petit et l'enfoncer dans ma bouche et le tirer. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce qu'un certain général de l'armée, général d'armée que j'ai connu dans l'armée, un grand général bardé de décoration, appelé l'attentat des petits clamards, certaines personnes se souviennent, étaient nommées par le général de Gaulle pour présider un tribunal militaire pour ces jeunes officiers. C'était un dilemme terrible pour le général de l'armée. Je l'ai connu parce qu'à côté de moi, une fois, on a célébré une fête militaire. Et lui, il a dit, je ne peux pas dire non au président de la République, qui est le président, qui est le chef suprême des armées, je ne peux pas non plus. Parce qu'il n'y a pas 36 jugements. Ces jeunes qui ont attenté à la vie du chef d'État, ils sont condamnés. Il n'y a pas d'autre proposition. Et il ne pouvait pas faire les deux. Il ne peut pas. Il ne peut pas désobéir au président de la République, il ne peut pas. Alors il a dit, toc, il s'est tiré une balle dans la bouche et il a écrit. Et nous, dans l'armée, on a dit, oh, qu'il est courageux, oh, ça c'est quelqu'un, ça c'est un homme d'honneur, ainsi de suite. C'était pour nous. Et moi, dans mon problème, je pensais à lui. Je dis, c'était la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne pouvais pas, je ne trouvais pas de solution. Il n'y avait que ça comme solution. Et dans le noir que je broyais pendant la nuit, il y avait une petite étincelle qui ne voulait pas s'éteindre, comme une petite étoile. Et c'est cette étoile qui m'empêchait de faire le geste fatal. Je dis, qu'est-ce que c'est, cette petite étoile? Et deux, trois, cinq jours, je ne sais pas combien de jours, tous les soirs, c'est comme ça. Les jours, ça va, je vais au travail, j'étais absorbé par son travail, tout marche, mais les soirs, dès que je suis au lit, c'est les ténèbres qui m'enveloppent. En fait, c'est les ténèbres qui viennent d'enfer, hein, qui voulaient absolument que je me supprime par le suicide. Et un jour, je disais, cette étoile, ah, c'est peut-être le Jésus du vieux. La solution avec un grand S. J'ai dit, bon, alors je me suis surpris pour la première fois de crier à Dieu, Jésus, si tu es vraiment le sauveur, comme mon père prétendait que tu l'es, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. J'ai crié comme ça la nuit. Et en guise de réponse, le Seigneur me fait entrevoir dans le noir la croix, comme ça, sur le côté, avec une certaine lumière qui sortait de la croix et qui venait sur moi. Et cette lumière, au fil des nuits, commence à me faire voir tous les péchés que j'ai fait dans ma vie. Et déjà, je n'en avais pas. Vous savez, quand vous avez fait 11 ans dans l'armée, ainsi de suite, bon. Et donc, au fur et à mesure que cette lumière éclairait ma vie, j'ai demandé pardon. Pardon, mon Dieu. Chaque fois, pardon. Et le lendemain, ça a duré plusieurs jours. Et un jour, une nuit plus exactement, je n'en pouvais plus. J'ai dit, je sentais qu'il y a un pied sur ma tête. C'est le pied de Satan qui me disait, tu ne peux rien, c'est fini pour toi, aujourd'hui tu dois mourir. Et j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas aujourd'hui, ce ne sera jamais. Et à ce moment-là, j'entends la voix de Dieu, assieds-toi. Je m'assieds, prends ta Bible. J'avais toujours une Bible derrière moi, sur le que j'ouvre de temps en temps sans trop rien y comprendre. Ouvre ta Bible. En fait, le Seigneur a dit ouvre ta Bible, mais c'est sa main qui a ouvert. Lis. Et là, dans la Bible, j'ai là une lumière qui fait comme ça. Et je lis. Et au moment où je lis, une autre voix profonde, immense, lit en même temps que moi. Et ce que j'ai lu, c'est dans Romains 8, où il est écrit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni les choses passées, ni les choses à venir, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni quoi que ce soit, ne pourra plus jamais, et c'est, j'entends la voix qui me dit, ne pourra plus jamais te séparer, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et en même temps, j'ai reçu une grande lumière qui a dissipé toutes les ténèbres que j'avais dans le cœur, partout dans les pensées. De mon lit, je suis tombé par terre. J'avais des larmes aux yeux, je ne comprenais pas grand-chose, et je rejoins mon lit et je dors. C'était la nuit de samedi à dimanche, et le dimanche matin, je me réveille. Et puis, j'étais bien, dans ma peau. J'avais la joie au cœur, tout ça. Et je me suis dit, ah, j'ai compris, je suis devenu fou. J'ai dit, parce que vous voyez, dans la rue, quelquefois, vous voyez des gens qui marchent seuls, qui rigolent tout seuls, tout ça, qui sont heureux. Alors que ce sont des fous, j'ai dit, je suis comme ceux-là. Je suis fou. Alors, j'étais perruqué, mais cela n'empêche que j'avais la paix. C'était une sensation de bien-être extraordinaire. Et j'appelle la personne qui était notre aide. J'ai dit, je ne me souviens plus son nom, mettons Geneviève. Tu viens ? Oui, monsieur. Elle frappe, elle dit, entre. Ça va, tout le monde va bien, les enfants sont bien couchés. Il dit, oui, monsieur. Je lui pose quelques questions, je regarde si elle n'écarquille pas les yeux pour me dire, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Non, elle était naturelle, tout à fait naturelle. Je dis, je ne suis pas fou. C'est bon déjà, c'est pas fou. Alors je me suis mis à regarder la fenêtre, et là j'ai vu, là on voit là-bas, en contrebas, une route, et je vois une mère avec les enfants qui sortaient à côté pour qu'ils marchaient comme ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis, c'est merveilleux, cette mère avec son enfant. Jamais je n'avais ce genre de remarque dans ma vie. Et là, dans mon jardin, il y a des oiseaux qui chantaient. Voilà, c'est bien ça, les oiseaux qui chantent. Et je vois le soleil qui éclaire tout. J'essaie de monter vers les yeux, je le devine là-haut comme une grosse lampe. Vous voyez, une lampe électrique qui éclaire le monde. Ah, j'ai dit, c'est merveilleux. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais Dieu est merveilleux. Et j'avais envie d'aller à l'église. J'ai dit à la servante, je vais à l'église. Ah bon? Vous allez à l'église? Oui, je vais. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis le pied dans l'église. Et l'église, là où on avait célébré mon mariage. Peut-être 11 ans, 12 ans avant. J'arrive là-bas. L'église était à moitié pleine. J'arrivais juste avant la prédication. Le pasteur était assez vieux. Il était comme ça. Message très soporifique. Comme ça. Après le message, c'est la fin, la bénédiction. Je sors. Bon. Et le pasteur vient. Oh, monsieur Richard. Oh, oh là là. Gloire à Dieu, vous êtes là. Bon. J'ai dit, est-ce que je peux vous voir pour un petit partage? Mais bien sûr, rentrez. Alors je rentre chez lui. Alors je lui ai annoncé, monsieur le pasteur, je suis vraiment peiné de vous dire, mais ma femme demande le divorce. Quoi? C'est pas vrai? C'est pas possible? C'est de ma faute? Depuis votre mariage, il y a 10 ans, j'ai jamais mis le pied dans votre maison, c'est de ma faute, oh mon Dieu. Je dis, mais je ne vais pas tenir, vous culpabilisez pas comme ça, je ne suis pas venu pour ça. C'est juste pour vous annoncer que. Je dis, mais tout ça, moi, vous savez, c'est la vie, hein, si vous voulez, c'est arrivé, mais. Dit, mon enfant, je vais prier pour vous. Je peux prier pour vous tout de suite. Je dis, vous pouvez, monsieur le pasteur, bien sûr. Alors il se met devant moi, j'étais assis sur le canapé, et il prie. Et il prie, et dans sa prière, à la fin, il dit, mon enfant, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, et tout ça. Et de nouveau, j'entends cette voix immense du ciel, la lumière qui me couvre de nouveau. J'étais rempli de joie. Quand le pasteur a dit Amen, j'ai dit merci, Amen. Merci, monsieur le pasteur. J'ai sorti, j'ai conduit la voiture, j'ai dit, ah, cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. C'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'était ma conversion. C'est comme ça. Ah, ça c'est une autre question très grave et très importante. Si vous voulez, je vais prendre tout mon temps avec ça.
On va voir les images.
Mais vous n'en faites pas, vous le sortez.
Ton micro, il fonctionne ?
Oui, merci Richard. Donc, pendant qu'on va projeter les images, si vous avez des questions auxquelles Richard pourra répondre très rapidement, des questions, vous pouvez déjà réfléchir à vos questions. Donc on va réserver 10 minutes, 12 minutes maximum après pour les questions. Je sais qu'il y a des questions de tout ordre. N'hésitez pas. Merci. On a juste une petite surprise alors que Internet fonctionnait quand j'étais là-bas. Ici, ça ne fonctionne plus, mais on commence à être habitué à des petites surprises depuis hier. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est pas grave, j'ai déjà enregistré. Ok, merci. Alors, on va commencer. Ah, mais non, attends, on va laisser comme ça. André. On va commencer par une présentation générale de où se trouve cette association. Donc là, vous voyez une partie de la grande île qu'on appelle Madagascar. Et l'association se trouve, donc la flèche verte. Donc on va se rapprocher de plus en plus. Ça, donc, c'est ce qui reste de ce que j'avais enregistré de l'autre côté. Voilà. Donc c'est Zoom. Tout à l'heure, c'était des images, mais c'est pas grave. Il y a d'autres images qui sont restées. Bon, ça c'est... Est-ce que c'est la riziculture qui est là? Oui.
Je suppose que c'est les périmètres qu'on appelle les 7 hectares qui nous ont été attribués par aussi le Fonds européen de développement et que nous devons mettre en exploitation. Alors ça, ce sont voilà, les canards, c'est les canards des paysans du coin. Voilà, alors... Ça, c'est ce qui là où
le canal.
On voulait. Oui. C'est la digue, en fait, qui délimite par le sud notre périmètre de 7 hectares. Voilà.
Ok. Merci. Donc, on a un aperçu. Vous remarquerez en même temps qu'il fait très beau. Au niveau du ciel, c'est un bleu assez impressionnant. On va ensuite... faire une vue d'ensemble, regarder un peu l'association en elle-même, et puis après, une troisième partie, mais très rapidement toujours, regarder, partager un peu l'organisation. Alors, concernant l'association, comme Richard l'avait présenté, évoqué hier, il y a maintenant deux structures. Du fait qu'on ne peut pas mélanger, c'est comme ici en France, tout ce qui est spirituel avec tout ce qui est humanitaire. Donc maintenant, on a deux entités, AFJ tout court et AFJ ONG. Les deux entités ont des activités parallèles. Le point commun, c'est la prière qui accompagne tout ce qui est fait, tout ce qui est projeté, tout ce qui est réalisé au sein de ces deux entités. Donc, l'entité AFJ tout court, donc avec les objectifs spirituels, donc vous voyez là les grandes lignes. Après, on pourra peut-être demander à Richard de donner quelques exemples tout à l'heure. Alors, pardon. Prêcher et diffuser l'évangile, donc au travers notamment de deux antennes radio, deux stations donc émettrices, de part et d'autre de la grande île. Ensuite, la formation des jeunes disciples, comme on a annoncé ce matin, Richard travaille avec une grande collaboration avec Jeunesse en Mission. Les objectifs sociaux. Donc, comme vous l'avez déjà entendu, l'accueil, le secours, la réhabilitation, L'accompagnement des enfants, généralement des enfants de la rue, sans abri, les familles en détresse. Donc on va voir quelques chiffres. Donc tout cela est accessible, hein, bien entendu. Donc comme structure, au niveau du domaine spirituel, c'est juste un découpage, mais bien sûr le domaine spirituel couvre l'ensemble de toutes ces entités. Donc il y a une chapelle, on aura un petit cliché photographique tout à l'heure. Les campagnes d'évangélisation, donc je pense que Elsa, elle avait participé aussi, entre autres, donc ça aussi c'est une fer de lance de l'association. Les émissions, donc on avait déjà évoqué, les librairies chrétiennes et puis les différentes formes d'évangélisation. Alors, excusez-moi, mais d'habitude j'utilise la souris, donc je suis un peu. Et d'habitude j'ai mes lunettes aussi. Ce sont les lunettes de Wangui, mais bon, c'est pas grave. Merci de votre gentillesse, de votre tolérance. Alors, secteur orphelinat. On a maintenant, Havre a maintenant deux centres. Havre Jassalem, c'est tout près de la capitale, à moins de 5 km, je pense, c'est ça, en Boutsir, là où on est allé. Et puis, un autre centre qui grandit aussi. Et là, comme Richard l'a bien partagé ce matin, c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Quand on voit de où est-ce qu'ils ont commencé. Les familles en détresse, donc là aussi c'est pareil, on a pas mal, ceux qui ont lu les livres que Richard a écrit, vous pourrez retrouver des témoignages forts sur des familles qui viennent avec différentes sortes de détresse et que l'équipe avec Richard et par la grâce de Dieu, l'action du Saint-Esprit vraiment restaure et libère de toutes ces formes de détresse. Le secteur santé, donc ça aussi c'est un domaine où Dieu a permis un développement extraordinaire. Un centre médical avec un certain nombre de structures, un dispensaire, un local pharmacie, un cabinet de consultation, peut-être d'autres que j'oublie, Richard, si tu peux préciser. Voilà.
Tout est là.
Ok. Donc les secteurs éducation. Alors, à Madagascar, on fait la différence entre collège et lycée. C'est-à-dire, le collège, c'est jusqu'en troisième. Et le lycée, c'est de la seconde à la terminale. Et ce sont des caps que les enfants, progressivement, franchissent dans cet accompagnement, mais vraiment dans l'amour. Alors, Richard a partagé aussi que c'est pas toujours très simple. Il y a des enfants qui, comme dans tous les... C'est des situations qui sont difficiles. Et c'est encore plus dur quand c'est des enfants qui n'avaient pas de repère du tout. Mais le Seigneur continue son œuvre à tout niveau. C'est-à-dire pour encourager aussi les encadrants, les enseignants, les accompagnants et ceux qui apportent leur soutien. Alors, le centre médical... éducation. Alors, voilà. Donc, on atteint ici le projet 7 hectares, donc avec la cause. Eux, ils ont, quand je les ai eus au téléphone il n'y a pas longtemps, ils ont dit, ah oui, mais ça, c'est vraiment incroyable, 7 hectares avec pisciculture, et ça commence vraiment, et c'est très, très encourageant, parce que ça permet de donner une certaine forme de dignité à ces personnes ici, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement recevoir l'aide, mais ils se prennent en main, etc., et ça, c'est un projet clé pour la suite de cette œuvre. Et puis, des accompagnements. Bon, bien entendu, tout ce qui est occupation, donc les lectures, travaux parascolaires, le sport. Il faut toujours un certain équilibre. La formation professionnelle, un autre créneau aussi, qui commence à grandir avec différents secteurs. Donc, comme c'est présenté ici, mécanique, plomberie, il me semble avoir vu. Oui, voilà, pâtisserie aussi, cuisine. Donc, c'est assez varié. Très encourageant. Voilà. Donc si vous avez des questions, hein, si vous, vous les notez, je veux dire, hein, dans vos pensées, on verra tout à l'heure pour la suite. Alors, dernier volet, c'est un petit PowerPoint. Voilà. Donc vous avez un aperçu. Les enfants qui commencent très jeunes dans ce centre. À droite, donc, c'est une ancienne qui était accueillie. Bon, ils sont plusieurs comme ça, hein, qui prennent le relais. Voilà, un des bâtiments du centre de Salem, donc proche de la capitale, donc des bâtiments qui sont, hein, tout à fait aux normes. Le centre médical, la salle d'attente, le cabinet à droite, une salle de classe, c'est un peu pêle-mêle, mais c'est un overview, enfin une vue d'ensemble, une salle de soins, donc un cabinet de, c'est quoi ça, pour le dentiste, hein, dentaire, oui, voilà, et qui sont fonctionnels, hein. Le local pharmacie. En fait, ces photos, c'est nous qui les avions prises. Donc, c'était assez fort, hein, quand on était passé là-bas. Un champ de légumes entretenu par les pensionnaires. Donc, c'est assez varié, hein, comme on vous l'a dit, équilibré. Hein, c'est un peu l'objectif aussi. Ça, c'est notre rencontre. Donc, il y a Bach, donc l'épouse de Richard, qui est médecin-chef de ce centre, hein, les médecins donc, de profession, et puis les deux que vous connaissez avec Richard à droite. Voilà, voilà des enfants, et c'était assez surprenant parce que la petite qui est à droite, là, elle n'avait pas lâché maman pendant toute la visite. Et là, ici, c'est la chapelle, donc un endroit privilégié, hein, où les enfants s'y rendent régulièrement, sans obligation, hein, mais c'est juste l'éducation et l'accompagnement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je peux faire circuler le micro. Toute question, hein, tout sujet confondu.
Je voudrais remercier d'abord mon frère Bruno, qui a vraiment présenté de façon précise, et je n'aurais pas fait mieux de toute façon. Donc je remercie, il était sur place, il a sa sensibilité personnelle pour ce qu'il a vu, et comme il est parmi vous, donc je pense que c'était très bien présenté, et je me demande si je dois ajouter quoi que ce soit, sauf si vous me posez des questions. Merci.
Pour lancer les questions. Au petit déjeuner ce matin, il y a eu un partage. Donc moi je pense que, hein, comme c'est des questions qui passent un peu à gauche et à droite, sur ce que Richard a vécu, hein, très très fortement dans le domaine de l'évangélisation, la délivrance. Ça risque d'être un peu choquant pour certains, donc rassurez-vous, hein, ce sont pas des histoires. C'est ce qu'il a vraiment vécu, et c'est ce que Richard m'a encore rappelé hier quand je suis allé le chercher à Paris, quand il m'a dit « voici les signes ». Hein, je te laisse continuer, Richard, si tu as un exemple, hein, qui accompagneront. Hein, voilà, hein, je te laisse continuer. Il y a des combats assez extraordinaires, spirituels, c'est-à-dire lorsque l'ennemi de notre âme, hein, son principal caractère, c'est le mensonge, dire qu'il n'existe pas, que tout ça c'est des histoires, mais que Richard a vécu, y compris ici en France, hein, pour la maladie, etc. Donc si tu peux donner un ou deux exemples.
Alors, concernant ce qu'on appelle la délivrance, nous n'inventons rien, hein, il suffit de lire la Bible. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il a dit « Allez prêcher l'Évangile, chasser les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. » C'est un pack. Il ne faut pas les dissocier. Ça a été donné comme ça. Et le Seigneur a donné l'autorité à ses disciples que nous sommes tous. Je vous dis que nous sommes tous parce que nous sommes tous croyants. Voici les signes qui accompagneront les croyants, c'est-à-dire vous et moi. Je ne suis pas plus digne que vous, loin de moi. La prétention d'être supérieur à qui que ce soit, je suis comme vous, un être humain, avec mes faiblesses, avec mes écarts, avec mes péchés aussi quelquefois. Mais il faut prendre Dieu au mot. C'est un pacte qu'il ne faut pas dissocier. Nous l'avons compris comme ça. Et on a marché comme ça. Et ça marche. Simplement. Il n'y a pas à s'enorgueillir. C'est Dieu qui a vu qu'on a obéi. Et c'est ce qu'il a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout simple. Il faut savoir tel que, sans discuter, encore une fois, c'est peut-être plus de facilité parce que c'était dans l'armée. On ne discute pas. Bon, alors, la délivrance. Bon, vous savez qu'une personne qui s'adonne aux choses occultes, une personne qui refuse, par exemple, de pardonner, sciemment refuse de pardonner, alors que cette personne est chrétienne, elle court un grand risque. Quelqu'un qui s'adonne à l'idolâtrie, quelqu'un qui se plaît à rester dans l'adultère, des choses comme ça. Quand on offense Dieu, eh bien, on court un grave danger, c'est-à-dire on donne une place de terrain au diable de faire son travail. Et le travail du diable, comme le Seigneur a dit, ben, il veut mettre la personne en prison, il veut la torturer, il veut, ainsi de suite, la détruire. Et nous, quand, dans notre campagne d'évangélisation, on voit des tas de gens, beaucoup de gens, qui souffrent, vous voyez, de ces liens avec des forces obscures comme ça. Et je dis tout de suite que le Seigneur, nous l'avons demandé, nous donne l'esprit de discernement. Ça, c'est très important d'avoir l'esprit de discernement pour voir tout de suite ce qui se passe, quel esprit fait parler cette personne, fait bouger cette personne, et ainsi de suite. On a l'esprit de discernement et comme c'est un esprit de vérité, on ne peut pas se tromper. On sait tout de suite que cette personne est liée. Et quand elle est liée, plusieurs, il y a toutes sortes de liens. Et bien, à ce moment-là, on agit avec l'intelligence de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est en vous. C'est un esprit de puissance, c'est un esprit d'amour. Et il nous fait agir selon ce qui est écrit dans la Bible. Jamais il faut s'écarter de ce qui est écrit dans la Bible. C'est la meilleure façon de se préserver de toute erreur, vous voyez, qui sont aussi dangereuses. Bon, alors, on obéit et ça marche. Quel témoignage dois-je vous dire, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Peut-être ce que j'ai raconté ce matin qui est assez frappant. Quand on était dans le nord de Madagascar, nord-ouest de Madagascar, on avait une femme qui était piante, c'est-à-dire bergère, c'est-à-dire une femme qui avait le don spirituel, une femme qui peut parler de l'Évangile, qui peut témoigner et qui peut chasser les démons, qui peut imposer les mains, enfin tout ça. Il y a des femmes comme ça qui sont formées dans ce sens. Et cette femme avait une fille qui était possédée et elle n'arrivait pas à la délivrer. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, ce n'était pas le problème, mais le problème était que cette fille était devenue vraiment un os au sein de l'Église, parce que elle disparaît, elle revient, et des choses terribles. Et d'après ce qu'on nous a raconté, elle était vraiment, vraiment donc en prison. Elle était entre les mains de l'ennemi et il fallait la délivrer. Alors on a prié. La prière, c'est comme j'ai dit, hein, prier avant, prier pendant. On a prié et on a compris à peu près dans la prière ce qui se passe, des choses simples. Dieu nous a donné la vision d'une personne qui était dans un tombeau fermé, complètement fermé, avec les diables qui gardent aussi bien l'entrée que l'intérieur. Et vous imaginez une jeune fille toute seule là-dedans qui est séquestrée, c'est le cas de dire. Cette vision était claire pour nous. Et la fille était là, donc on l'a amenée à l'église. Et nous, moi avec des copains, j'étais devant la fille. Et gardant vraiment cette vision, et aussi une vérité incontournable et que nous devons toujours garder en esprit, c'est la puissance du nom de Jésus. Indiscutable. Il faut vous dire que l'ennemi tremble quand vous prononcez le nom de Jésus avec foi. Il ne faut pas être un saint, il ne faut pas être un homme au-dessus d'un super chrétien, mais être un croyant, c'est tout. Voilà, ce nom de Jésus est tout puissant. Le sang de Jésus-Christ est tout puissant pour purifier le péché. C'est des petites choses que nous connaissons tous, et ça, je ne vous apprends rien du tout. Alors, on était devant la fille, on a prié, sa mère était à côté d'elle, quelqu'un de l'église était là, et nous sommes devant, et là, moi je faisais face à la jeune fille qui était en prison. On la voyait comme ça, elle n'était pas en prison, mais elle était au fond du tombeau. Alors, on a dit, mais elle s'appelait, je ne sais plus, je me souviens plus du prénom. Un nom quelconque, par exemple Simonette, elle s'appelle Simonette. Je m'excuse, il y a une Simonette ici. Il n'y en a pas, bon. Ok. Parce que s'il y en a, j'ai emprunté un autre nom. Bon. Alors on dit simplement, avec foi, avec simplicité, avec humilité, au nom de Jésus, Simonette, on t'appelle. Est-ce que tu nous entends? Simonette, on t'appelle au nom de Jésus. Dis-nous si tu nous entends. Est-ce que tu nous entends? La fille qui est devant me dit, oui, je vous entends. Bien, merci. Merci Seigneur. Bon. Simonette, tu es en prison. Autour de toi, tu as beaucoup d'ennemis qui te gardent en prison. Nous le savons. Nous disons tout de suite au nom de Jésus à tous les démons qui sont autour d'elle de se taire et de ne plus bouger au nom de Jésus. Alors c'est un ordre. Hein. Quand vous le dites au nom de Jésus, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est ça le signe qui accompagne les croyants que nous sommes, que vous êtes. Quand un policier à l'uniforme de policier avec le bâton rouge, machin, sifflet, quand il fait comme ça, tout le monde s'arrête. Parce qu'il est nanti de l'autorité du gouvernement. Il n'y a rien à faire. Mais imaginez que ce policier est en civil. Les gens vont rigoler, ils disent, ça ne va pas, la tête, non, il peut retenir rouler. Et pourtant, c'est la même personne. Et nous, c'est l'uniforme que Dieu nous donne. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient, ils chasseront les démons en mon nom. C'est un signe. C'est notre uniforme. Alors, on dit aux démons qui sont autour de cette terre de ne rien dire, de ne rien faire. Alors on dit, Simonette, au nom de Jésus, nous t'appelons, nous te disons, nous sommes arrivés avec une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On parle de l'Évangile et on dit qu'il veut te délivrer maintenant. Comment il va faire? Ben, il faut savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix. Enfin, l'Évangile dans toute sa splendeur. Et pendant ce temps, à côté de moi, les collaborateurs prient. Ils prient. Toutes sortes de prières. Et ensuite, Simonette, nous allons te poser une question. Tu réfléchis bien. Tu es libre de répondre. Parce que Jésus te donne cette liberté maintenant. Est-ce que tu veux accepter, recevoir le Seigneur Jésus, l'amour de Christ pour toi? Oui, je veux. C'est des choses. Même sa mère était tournée d'entendre cette voix. La première fois qu'elle entend la voix de sa fille. Avant ça, c'est un homme qui parle à sa place. C'est une voix rock, c'est n'importe quoi. Les diables peuvent l'emmener tout de suite, faire disparaître pendant 3 jours, 4 jours. On ne sait pas où il est. Quel est le frère de l'autre côté? Dans l'île qui était en face là-bas, c'est-à-dire qu'il était vraiment lié, je ne sais pas plus comment. Alors à ce moment-là, quand elle dit oui, alors c'est tout ce qu'on demande. Alors puisqu'elle est d'accord pour recevoir Jésus, les démons n'ont plus rien à faire là. Au nom de Jésus, sortez tous, partez au nom de Jésus. Pas un seul ne peut rester. Nous chassons tous les démons avec l'autorité de Christ. Et à ce moment-là, il n'y a pas que moi qui chasse. Les autres sont à côté de moi. Tout le monde s'acharne. C'est le combat spirituel. C'est le combat de la foi. Avec autorité. Quelquefois avec colère. Mais c'est la sainte colère de Dieu. Et donc, après, alors, Simonette, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a toujours autour de toi les démons? Non, il n'y a plus rien. Ils sont tous partis, comme ça. Allez, alors, au nom de Jésus, sors de là. Elle sort, elle est là. Alors, maintenant, tu vas confesser tes péchés. Tout ce que tu as fait de mal dans la vie. Elle était majeure, hein, c'était une jeune fille qui avait 29 ans ou 30 ans. Et à ce moment-là, elle dit, si tu confesses tous tes péchés devant le Seigneur, nous allons confesser avec toi, nous allons t'accompagner. Et là, c'est simple, n'importe qui parmi nous peut le faire sans aucun problème. On demande, Seigneur, pardonne à Simonette, tout ce que ton sang, Seigneur, que tout puissant que tu as versé sur la croix, lui purifie de tout péché. Seigneur, nous demandons qu'aujourd'hui, Simonette soit délivrée de toute peur, de toute accusation, et qu'elle soit libre, enfin, de dire merci, Seigneur. Et ça, c'est pas comme ça. Tu te sens pardonné, Simonette? Oui, avec des larmes, oui. À ce moment-là, on se précipite pour poser la main sur sa tête en disant, au nom de Jésus, tu es pardonné, gloire à Dieu, reçois le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et Simonette, remplie de lumière et de joie. Et après, on l'amène avec nous, et elle va habiter pendant toute la durée de la campagne avec une sœur à côté d'elle qui prie, qui l'édifie, qui chante, qui lui apprend des chants, à prier, tout ça. Et voilà, et tout est fini, tout est réglé. Ça peut paraître, je ne sais pas, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et nous avons accepté de raisonner comme ça, tout simplement. Je répète encore, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Moi, j'étais dans l'armée, je n'avais absolument aucune formation dans ce sens. Mais quand je suis converti, j'ai lu la Bible, j'étais avec des gens qui m'édifiaient, des gens de bien qui m'édifiaient. J'ai pas pu tout de suite exécuter la parole de Dieu, mais au fil des jours, des mois, des années, eh bien, on s'édifie et on fait ça. On pratique. Et vous en faites pas. Quand vous avez des anciens et tout ça qui sont avec vous, ben vous êtes à l'abri parce qu'on prie pour vous et ça marche tous les coups. Je me suis dit, c'était un peu long, c'est toujours long, hein, c'est dommage. Hein. Ça va?
Oui. Tu veux un micro ou c'est bon? Oui.
Bonjour à tous. Ouais, bon, en fait, je vais poser une question qui je pense, va intéresser les nouveaux convertis, ceux qui sont moyennement ou ceux qui sont déjà des années avec le Seigneur. Ma question, c'est en fait, je suis étonné, hein, en même temps, je suis étonné de te voir, t'as 80 ans et encore debout, prêchant la parole
Merci.
De Dieu. Et ma question est vraiment d'ordre pratique. Comment garder le feu? Comment garder le feu? Déjà garder le feu pour être debout, mais comment monter dans le plan de Dieu? Et là, en fait, c'est vraiment pratiquement, est-ce que, je sais pas, t'as une discipline personnelle, je pense que, mais il n'y a pas de technique, hein, je suis convaincu qu'il n'y a pas de technique, mais toi, comment t'as pu, depuis que t'as donné ta vie à Jésus, jusqu'à ce que maintenant, des dizaines d'années après, et tu es encore là, maintenant, voilà, c'est ma question, pratiquement.
Merci. Je n'ai pas de réponse personnelle, mais c'est la Bible qui parle toujours. La question est très pertinente, parce que la Bible nous exhorte à croître et à progresser. Croître dans la ressemblance au Seigneur. Nous sommes recréés en Jésus pour être à son image, comme à l'origine, vous savez, à l'origine des temps, Dieu a dit, nous allons créer des hommes à notre image. Cette image a été complètement déformée par la désobéissance. Et par la suite, Jésus-Christ est venu mourir pour nous sauver. Nous étions morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Né de nouveau. Bon, à partir du né de nouveau, c'est l'obéissance à la loi naturelle de croissance. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes des bébés chrétiens. Il faut ménager, il faut lui donner de l'espirituel, comme dit la Bible. Donc, il faut faire en sorte que le bébé spirituel ait bon appétit. Donc, il faut l'entretenir par la prière, par la parole de Dieu, par les petits témoignages, c'est ce que vous faites avec les petits enfants, c'est exactement ça. Donc, on arrive à un moment où on devient plus ou moins autonome. C'est-à-dire que les gens s'occupent plus de vous, c'est ce qui se passe quand un enfant a 12 ans, 13 ans, il va manger sa soupe tout seul, ainsi de suite, il va s'habiller tout seul, il va se brosser les dents tout seul, et ainsi de suite, il va à l'école, et il sait où aller à l'école, et quelquefois il prend son vélo, ça va. Nous, c'est pareil. Il arrive un moment, comme je vous vois tous ici, vous êtes arrivés à un moment où vous débrouillez tout seul, en quelque sorte. Il y a une façon, on peut prendre un petit goûter, on peut, le matin, midi, soir, c'est normal, il faut nourrir son corps, il ne faut pas oublier de nourrir aussi son âme, sa vie spirituelle. Alors, comment nous on fait? Eh bien, au réveil, dès qu'on se réveille, et ça n'a pas d'heure, hein, moi quand je suis réveillé à 2h, à 3h, quand je n'arrive pas à trouver tout de suite le sommeil, je sais. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Il faut se réveiller. Ce n'est pas une corvée. C'est devenu pour moi une chose tout à fait normale. Que je me réveille, j'allume
la lampe.
Et à côté de moi, déjà, il y a la Bible. Il y a quelques livres spirituels. Par exemple, les bonnes semences ou autre chose. Hein. Il y a beaucoup de chants qu'on lit tous les jours qui vous guident sur certaines paroles de la Bible, des livres qui sont bons. C'est comme si vous prenez le café sur le machin du coin. C'est juste hein, un petit croissant, ça fait du bien. Et là, c'est pareil. Et ce moment, pour nous, on l'appelle, et je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à l'appeler comme ça, le culte personnel. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous personnel avec le Seigneur. À tout Seigneur, tout honneur. Donc je dis Seigneur, merci. Je suis en vie. Mon cœur bat toujours. Alléluia, gloire à toi. Je te confie, je te donne toutes sortes de prières possibles, imaginables. Allez-y. Allez-y. Ne vous freinez pas. Laissez vous voyez, c'est prendre votre cœur devant le Seigneur par toutes sortes de prières. Bon, toutes sortes de prières, c'est exactement ça. Vous le savez tous, toutes sortes de prières. Ensuite, je lis des passages de la Bible, un passage d'un bon livre et tout ça. Je médite et ce que je lis, quand je comprends ce qui est écrit, c'est bien compris, je profite toujours de cela pour transformer ce que j'ai lu en prière. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je lis, par exemple, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », et je médite là-dessus, eh bien, ça m'invite à la prière. Je dis « Ceux qui vous persécutent ». Je réfléchis, pour ma part, non, personne. Mais il y a telle personne qui m'a dit l'autre jour que telle personne la persécute et tout ça. Bon, j'ai prié pour cette personne, en faveur de cette personne qui est persécutée. C'est comme ça, le Saint-Esprit vous amène toujours comme ça. Et quelquefois, pour ma journée, j'ai un rendez-vous avec telle personne, je dois faire ceci, je dois faire cela, et je mets tout ça sur mon carnet de prière en mettant le Seigneur je partage au Seigneur ce travail. Je dois recevoir telle personne. Comment elle est qu'est-ce qui va. Bon, par exemple, quelqu'un, un pasteur va venir, m'a des rendez-vous, et je demande à l'avance au Seigneur comment il est ce serviteur de Dieu, quelle devrait être mon attitude, qu'est-ce que je dois faire. Ben, c'est un dialogue avec le Seigneur qui est un dialogue tout à fait normal, logique. Il n'y a pas à attendre d'être un saint homme, je ne suis pas, pour faire ce dialogue, parce que Dieu aime, nous aime, il est Dieu de communication, il aime à nous deux. Vous voyez, vous avez tous un portable. Eh bien, vous l'utilisez, votre portable, c'est pourquoi? Parce que vous avez des amis, des parents, pour parler, pour discuter, c'est la même chose. Pourquoi n'était pas téléphoné à Dieu? Lui aussi, il a besoin de vous entendre. Ben oui, de discuter avec vous. La prière, à ce moment-là, n'est pas à sens unique, mais dans les deux sens. Pourquoi pas? Jésus revendique ses droits. Il nous aime, il veut communiquer avec nous, il veut partager avec nous. Nous sommes ses amis. Il ne faut pas le frustrer de son droit. C'est Jésus qui nous aime, qui est mon fou, qui est au ciel, qui nous aime, qui nous a donné son Saint-Esprit, afin de créer entre lui et nous ce lien que font les ondes magnétiques. Je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un scientifique, entre le portable et le portable de ma femme. Je l'ai appelé après le service ce matin. J'ai dit merci de vos prières. Merci. Ça dit tout pour elle. Ça veut dire que ça a marché. Que le Seigneur a répondu. Il dit, elle m'a dit, alléluia, bien, continue. Bon, c'est des choses comme ça. Si avec mon portable, je communique avec ma femme que j'aime à 10 000 km d'ici, pourquoi pas le Saint-Esprit puisse me transporter jusque devant Dieu, devant Jésus-Christ qui m'aime et que j'aime, que vous aimez et qui vous... Vous voyez, ce sont des choses logiques, simples. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Ça marche tout seul. Et à ce moment-là, il se crée entre le Seigneur et moi une relation tout à fait normale, tout à fait simple, avec beaucoup d'affection. Et là, quand je termine mon culte personnel, je suis apte à affronter la journée. Pas de problème. J'avais un nom, j'avais peut-être un verset qui est resté là-dedans, et ce verset va me guider toute la journée. Ce n'est pas quelque chose de standard, mais ça peut varier à l'infini. Ça dépend de votre personnalité, de votre relation personnelle avec le Seigneur. Moi, je donne le mien. Ça n'est pas forcément le vôtre. Attention, ce n'est pas une loi. L'amour n'a pas de loi. L'amour est libre. L'amour s'exprime de mille façons. Voilà, j'ai vu les jeunes qui ont adoré le Seigneur là. Bon, c'est leur façon de s'exprimer. À Madagascar, les Malgaches sont plus retenus dans leur façon d'adorer le Seigneur. Mais Le Seigneur nous connaît, nous aime. Et tout est là. Donc, pour répondre à la question, pour moi, donc, l'essentiel pour croître, il faut se nourrir de la Bible, des versets bibliques. Et le Saint-Esprit nous aide à mémoriser ces versets. Quand vous me demandez quelle est l'immatriculation de ma voiture, je ne sais pas. Quand vous me demandez quelle est la date de notre mariage, je ne sais pas. Heureusement que ma femme s'en souvient, mais moi je ne sais pas. C'est ma femme qui dit, attention, parce que la semaine passée, la date de mariage, hein. Ça veut dire qu'il faut acheter un petit cadeau. Bon, ok. Mais quand vous me dites, quand je lis un verset biblique, et des essais où se trouve dans la Bible, 9 fois sur 10. Et quelquefois, je cite 3 ou 4 versets de suite, et ça marche. Et je suis le premier à être étonné. Parce que le Saint-Esprit, comme Jésus nous l'a donné, il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est un esprit de rappel. Il nous met dans la tête, c'est merveilleux. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux?
Amen.
Ben oui. Marcher avec Dieu. J'ai dit ce matin, parce que c'est ma conviction totale pour vous tous, marcher main dans la main avec le Seigneur et la route s'ouvre toute seule. Puis c'est comme ça. Alors, pour moi, comment croître, comment progresser? Main dans la main avec le Seigneur et on progresse et on entre dans la croissance spirituelle. Mais il faut toujours apporter la foi à ce qui est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et tout ce que fait le diable, c'est d'essayer de nous voiler cette vérité de la parole de Dieu. De nous mettre à côté de marchands d'être. Rien à faire. C'est écrit, c'est Amen. Un témoin de Jéhovah m'a dit, je l'ai dit à un témoin de Jéhovah, tu vois là, la Bible, dans l'épître de Jean, chapitre 5, Jésus-Christ, Dieu vivant et véritable, comme ça. J'ai dit, tu sais lire? Alors il me dit, oui, bien sûr, mais vous croyez que ce qui est écrit dans la Bible est toujours la vérité? Voyez, c'est le diable qui parle. Comme il a dit à Ève. Vous, le Seigneur t'a dit qu'il ne faut pas toucher aux arbres du jardin. Ça, c'est le doute. Alors, mais non, il dit on peut toucher des arbres, sauf à celui-là. Si on touche à ça, le Seigneur a dit qu'on va mourir. Non, vous ne mourrez pas. Le diable fait mentir la Bible, fait mentir la parole de Dieu. Il ne faut pas accepter cela. Et ça, le Seigneur, quand il voit que vous êtes fidèle à la parole, il est avec vous à 100%. C'est toujours comme ça. Donc il faut avoir cette foi à ce qui est écrit. Si vous tombez sur un verset biblique, que vous êtes convaincu que le verset est pour vous, il faut s'accrocher, il faut s'approprier, et ça marche. Enfin, je n'ai que ça à dire, peut-être notre frère qui est là a encore autre chose à dire pour ça, tout le monde a son expérience personnelle. La question m'a été donnée, donc j'ai répondu comme j'ai pu. Voilà, c'est tout.
Je pense que... Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On va peut-être pas trop tarder. Après, ce qu'on peut se proposer, c'est peut-être une petite photo souvenir. Ça vous parle? Encore un grand merci, Richard. Il y a encore des questions? N'hésitez pas. Bon, s'il y a des personnes qui... Oui. Yves.
D'accord. Parce qu'on voudrait prier pour le pays, mm-hmm. Puis okay. Aussi en même temps prier pour toi et pour l'œuvre que tu as présentée. Alors, Yves, c'est notre grand journaliste, hein, il suit les actualités.
Je suis là. Journaliste chrétien. C'est super ça.
Non mais on peut prier tous.
Pardon?
Il vient d'y avoir une élection présidentielle, hein, Bruno. C'était quand exactement?
Oui, c'était il y a un mois. Oui. Les résultats sont arrivés petit à petit. Et un premier temps, c'était contesté.
En gros, il y a deux présidents. C'était le premier résultat. Les deux se sont proclamés élus. Donc, pour éviter des conflits, comme ça peut arriver dans ces moments-là, une autorité a différé de 8 jours, ensuite de 20 jours. Et les 20 jours sont terminés vendredi, et c'est l'un des deux, forcément, qui est gagnant, pour l'instant, à 53%. Et ça crée des contestations, mais voilà. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, hein, on peut prier, hein, qu'il n'y ait pas plus de complications que ça ne l'est déjà.
Tu pries?
Bon, et puis à table, on a parlé beaucoup de la pauvreté. Hein, vous nous avez parlé de la pauvreté du pays. C'est un pays aussi qui, au sud, je crois, a subi pendant longtemps des famines. Hein, je crois, dans la région de...
Dans le sud.
Oui, au sud. La ville s'appelle comment?
Au sud de Tuléar.
Tuléar, voilà. Oui, Seigneur, nous te prions, Seigneur, vraiment, nous intercédons pour ce pays. Et ce pays, Seigneur, nous est proche. Effectivement, historiquement, c'est vraiment un pays, Seigneur, dont nous avons souvent entendu parler. Quelque part, il fait partie de notre histoire en France. Et Seigneur, c'est vrai que autrefois, il y avait même un ministère des affaires malgaches. Seigneur, nous voulons vraiment saisir à bras le corps ce problème et te le soumettre. C'est toi, Seigneur, qui va agir. Et nous voulons te remettre ce peuple. Nous voulons te remettre ces dirigeants. Seigneur, je pense vraiment à toute cette population qui souffre parce qu'il y a un problème d'autorité. L'élection est contestée. Et Seigneur, nous savons que tu as un plan pour ce pays comme tu en as pour tous les pays. Tu avais un projet. Et ce projet, Seigneur, nous voulons qu'il soit mené à terme. Nous ne voulons pas qu'il y ait des hommes qui empêchent ce projet, ton projet, de venir à terme. Oh Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, je pense aussi aux Malgaches qui sont en France. J'en connais, qui souffrent. Parce que quelque part, dans leur chair, dans leur histoire, ils se disent, c'est quelque chose de moi qui souffre là-bas. Et j'en connais même certains que j'ai invités à venir ici, qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas voulu venir, parce qu'ils sont tellement meurtris, parce que c'est leur pays qui pour eux est en chute libre. Et Seigneur, nous savons que c'est toi seul peux empêcher cette chute libre. Alors Seigneur, nous te prions, Seigneur, vraiment interviens maintenant. Et je pense aux églises, aussi aux églises, aux dirigeants des églises catholiques et protestantes, je crois que c'est à peu près moitié-moitié, hein, qui sont dans ce pays. Seigneur, je te demande aussi vraiment d'aider les chrétiens malgaches. Tu viens à leur secours, Seigneur Jésus, que vraiment qu'ils soient aussi une alternative, qu'ils puissent prier pour leurs dirigeants, qu'ils puissent aussi peut-être être des porteurs de cette espérance, Seigneur, à laquelle tu nous invites. Oh Seigneur, merci pour ton soutien précieux, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup.
On va prier aussi pour ton œuvre, l'œuvre Madagascar. Je vous invite à vous lever et tendre vos mains de bénédiction pour vous associer à cette prière. Nous voulons prier pour le ministère, pour la santé de Richard, de son épouse qui s'appelle
Bakou.
Seigneur, nous voulons te remettre notre frère. Et Seigneur, le ministère qui représente dans ce pays pour toi, avec Bakou, merci de ce qu'ils peuvent te servir ensemble, de ce qu'ils font une équipe avec tous les autres équipiers. Nous te demandons de les protéger de toutes parts, par devant, par derrière, dessus, dessous, partout, Seigneur, aussi bien dans leur santé naturelle, physique, émotionnelle et spirituelle. Et Seigneur, que toutes les tentatives de l'ennemi pour empêcher quoi que ce soit dans leur vie ou dans leur œuvre, Seigneur, eh bien, soient brisées au nom de Jésus. Et que Seigneur, ils puissent continuer à te servir comme ils le font. Pour que, Seigneur, ton œuvre puisse vraiment être manifestée dans ce pays. Merci aussi pour les passerelles, les ponts qu'ils ont avec d'autres œuvres. Seigneur, continue à les bénir. Travailler en équipe, travailler ensemble. Et Seigneur, faire grandir l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Je prions de les bénir. Et merci pour la bénédiction qu'ils sont pour nous. Seigneur, à toi toute la reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. On l'applaudit encore. Merci. Vous voulez bien qu'il revienne la prochaine fois qu'il est en France ?
Oui.
Priez pour votre église, me brûle aussi maintenant. J'ai envie de prier pour l'église protestante évangélique d'Aubergenville.